Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Alors normalement c'est Florence qui devait prêcher ce matin, mais avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, avec ma maladie, avec le décès du papa de Nicolas, on a dû revoir un petit peu le programme, que vous nous voyez quand même de temps en temps de nouveau. Donc voilà, on a reprogrammé le tout. Donc elle m'a donné son message et je vais vous le lire. Non, quand même pas. Non. Ce matin, on va simplement continuer dans la suite des messages qui ont été donnés. Il y a eu toute la série sur le péché, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site web, pour ceux qui aimeraient, qui n'ont peut-être pas entendu tous les messages. Parce que tous ces messages nous ont amenés en fait à découvrir que le Seigneur avait effectivement donné sa vie, non pas seulement pour nous sauver, ce qui est déjà pas mal, mais aussi pour faire de nous des signes et des présages. On a vu que nous étions invités à imiter ceux qui, par la foi, à imiter. Et on a vu Abraham notamment, et on a vu ce qu'il a vécu. Il n'a pas tout vécu parfaitement, mais il était dans la foi. Et quand on est dans la foi, on apprend de plus en plus à marcher selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs de parcours, mais le Seigneur est prêt à nous pardonner si nous reconnaissons, si nous confessons notre péché. C'est vraiment un chemin de vie dans lequel le Seigneur nous invite. Et ce matin, j'aimerais donc continuer avec cette pensée que nous avons traitée lors du dernier message que je vous ai donné sur Ésaïe, qui à un moment donné de son existence avec ses fils, prend conscience qu'il est appelé par Dieu à être signe et présage en Israël de la part de l'Éternel des armées. Alors j'aimerais lire en introduction ce passage qui est là. C'est le passage où Jésus va être présenté après sa naissance et puis quelque chose de particulier se passe à ce moment-là avec notamment Anne et puis Siméon qui découvrent dans le fond, dans ce petit bébé, le Messie qui était attendu, qui était annoncé par les prophètes. Et au chapitre 2 donc, de l'évangile de Luc, on lit « Siméon les bénit » et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Donc, elle prophétise déjà sur ce que Jésus va faire. Il va provoquer de la contradiction. Alors, on a rappelé qu'un signe, c'est quoi? C'est quelque chose de visible et qui porte un message. Si je vous demande qu'est-ce que ce signe porte comme message, vous me dites « Attention, peau de banane ». Voilà, donc c'est évident pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être suisse pour savoir que ce signal représente vraiment quelque chose de très précis. Et puis un présage, c'est de pouvoir annoncer ce qui va arriver. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'annoncer ce qui va arriver aujourd'hui. Tous les jours, à la radio, télévision, dans les journaux, il y a des gens qui se lèvent dans ce monde, des politiciens, des philosophes, tout ça, et ils essayent de nous faire croire que. Et on voit que c'est plutôt avec difficulté que les choses se réalisent. Donc, Ésaïe prend conscience que dans sa génération, il peut vraiment être un signe, c'est-à-dire qu'il doit se rendre visible et qu'il peut porter un message. Et qu'il est en même temps un présage parce qu'il... Au travers de ce message, il ne touche pas seulement le temps présent, mais il touche l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer? Plein de gens se posent la question, mais quand on leur en parle, ils ne veulent rien en savoir. Mais dans le fond, le message de l'Évangile traverse la réalité humaine et entre dans les réalités spirituelles, dans les réalités éternelles, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, là. Avant même d'être chrétien, écoutez bien là ce que je vais vous dire. Avant même d'être chrétien, d'une manière ou d'une autre, nous sommes signes et présages. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nous sommes des signes visibles. Ces gens-là donnent un message au travers de ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Ils nous donnent un signe. Ils se rendent visibles et ils portent un message. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces gens-là? Nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, transmis quelque chose au travers de nos pensées, au travers de nos paroles, au travers de notre habillement, au travers de nos habitudes. Nous transmettons tous quelque chose à ceux qui nous entourent, à nos familles, à nos couples, à nos enfants, aux gens qu'on rencontre, aux amis, au travail, partout. Donc, ce que je suis est un présage de ce qui va se passer. si vous regardez ces quatre personnes, est-ce que c'est un bon présage ou pas tellement? Oui, à chacun de dire ce qu'il pense, mais voilà, ils nous renvoient un message, ils nous disent quelque chose. Et c'est d'autant plus vrai lorsque nous devenons chrétiens. Lorsque nous devenons chrétiens, on s'expose encore d'autant plus. Je veux juste vous ouvrir un petit pan de ma vie pour que vous puissiez comprendre que moi aussi, à un moment donné de mon existence, j'ai été signe et présage à Bienne, là où j'habitais. En 1972, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de nageur et de poloiste. Vous savez ce que ça veut dire, poloiste? Du waterpolo. Hein, vous êtes dans l'eau avec une balle, vous essayez de nager, et puis il y en a des qui vous retiennent par les pieds, il y en a des qui vous enfoncent la tête sous l'eau, il y en a des qui vous tirent par les caleçons de bain. Enfin bon, c'est l'horreur. Donc, j'avais vécu toute mon enfance, toute ma jeunesse. Mon père était entraîneur de natation, waterpolo, n'est-ce pas, Yves? Tu te rappelles? Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté à un moment donné? Eh bien, après avoir passé toute ma jeunesse au bord des bassins, je me suis dit, maintenant c'est le moment d'aller voir ailleurs. Hein? Parce que c'est une discipline, hein? Quand vous voulez être un petit peu au top, quand vous voulez, j'étais vraiment en équipe 6 Espoir, je ne me lance pas des fleurs, mais juste pour situer, hein? Ce n'était pas juste aller tremper son caleçon de bain une fois par semaine, c'était 5 entraînements par semaine. Quasiment tous les week-ends des meetings, enfin voilà. Et je décide à ce moment-là de partir en Israël, 1972. Alors bon, ce n'était pas le pays le plus calme du monde. Hein. Mes parents auraient préféré que j'aille aux Maldives, ou je ne sais pas où, Seychelles, ou je ne sais où. Hein. Et j'avais envie de vivre l'expérience du kibbutz. Donc c'est ces fermes collectives, vous allez là, vous êtes pris en charge, nourri, logé, blanchi, et puis vous travaillez environ 6 heures par jour, puis l'après-midi, parce qu'il fait chaud dans ces contrées, et puis l'après-midi, vous vous prélassez au bord du bassin. Très bien. Alors pour mon entourage, c'était plutôt un bon présage. Le message que je transmettais, c'est qu'enfin, il vit sa jeunesse. Les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas? Et puis, de toute façon, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'un Suisse qui part à l'étranger, il a vite l'ennui, n'est-ce pas, de ses sapins, de la neige et tout ça. Mon père, il m'écrivait chaque fois, il mettait tous les résultats des descentes de ski. Voilà, il voulait vraiment me garder en lien avec la réalité du pays. Effectivement, après 6 mois, je suis rentré. Pas pour ces raisons-là, mais je suis rentré. Puis j'ai repris mon métier, tranquillement, typographe, j'ai repris l'habit du typographe. Je suis retourné au bord des bassins, j'ai recommencé voilà, à plonger dans l'eau, à faire des matchs de waterpolo, etc., etc. Et j'étais la fierté de mon père. Je transmettais un message au travers de ce que j'étais en train de faire. J'étais la fierté de mon entourage. Parce que, ben voilà, c'est, encore une fois, ce n'est pas du tout pour me glorifier, mais voilà, l'équipe de Bienne monte en Ligue B, la finale, je marque 4 buts, on gagne 4-0. Alors c'était marqué dans les journaux. Enfin, voilà, le message. Le signe que j'étais pour eux était un signe très positif. Hein, on était fiers de moi. Et puis à ce moment-là aussi, des entraîneurs, des managers d'équipes de Liga sont venus, ils voulaient me transférer, tout ça, bref. Mais ce que je ne savais pas, et ce que personne ne pouvait soupçonner, c'est que ce n'était pas seulement des entraîneurs ou des managers qui s'intéressaient à ma vie, parce que je leur transmettais un message, ce gars-là, il est bien parce qu'il marque des buts, parce qu'il nage bien, parce qu'il nage vite. Hein? Mais, l'Éternel regarde du haut des cieux. Psaume 33, 13. Il voit tous les fils de l'homme, on peut changer? Il voit tous les fils de l'homme. Tiens. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Hein, ça nous dépasse un peu, mais c'est la réalité. Hein. Donc il n'y avait pas seulement les managers, les entraîneurs qui s'intéressaient à ma vie, mais Dieu. Et à ce moment-là, je ne le savais pas. Bien sûr qu'en Israël, j'ai vécu quelques petites montées d'adrénaline en me disant « Ouh là là, Jésus a passé par là hein. ». Je me souviens toujours, on était au bord du lac de Galilée, on était descendu la petite colline de Tabga jusqu'au bord du lac. Puis il y avait un prêtre qui était là parce qu'il y a une petite chapelle qui rappelle la multiplication des pains et des poissons. Puis on discutait avec lui de choses et d'autres. Puis d'un coup, il nous dit, ben voyez le petit sentier que vous avez pris depuis la colline. Ben Jésus a pris le même sentier, certainement, parce que les sentiers, une fois qu'ils sont installés pour des siècles des fois. Hein. Ouh là là, je me retourne. Je dis, ah, Jésus, il était là. Et tout d'un coup, pouf, ça y est, tout ce que j'avais appris au CAT à l'époque, voilà, des choses comme ça, wow, c'est remonté. Me dire, bon, ça s'est calmé, j'ai mis tout ça bien au fond. Voilà, et j'ai continué ma petite vie. Donc, Dieu voit. Il voit les fils de l'homme. Et alors que je ne m'y attendais pas, voilà que ma vie va être ébranlée, chamboulée, retournée complètement. À aucun moment j'aurais pu imaginer alors que Dieu allait non seulement s'intéresser à moi, mais en plus commencer de me travailler de l'intérieur. Et pour moi, si je le situe dans mon contexte, c'était un moment clé de mon existence. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'avais repris en fait mes vieilles habitudes et j'étais un bon signe pour pas mal de personnes, mais j'en avais ras-le-bol hein, quand même d'être tout le temps dans l'eau, tout le temps de s'entraîner. Et en revenant d'Israël, j'avais plutôt retrouvé une équipe style électrique funérail, ça vous dit quelque chose ? C'était un groupe de hard rock, n'est-ce pas ? Et puis, ben voilà, ce milieu-là est complètement différent du milieu de natation. Et puis, il m'avait engagé d'abord comme batteur, mais je ne tapais pas assez fort, puis je n'avais pas les cheveux assez longs. J'étais pas un bon signe pour eux, ce n'est pas un bon présage. Alors, ils m'ont viré, puis ils m'ont dit, ben, on t'engage comme manager. Voilà, c'est toi qui vas signer des contrats. Alors, on allait à Couvet faire un concert, et puis Alice, ou des trucs comme ça. Voilà. Mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait un enjeu spirituel sur ma vie. Quand on lit l'histoire de Job, n'est-ce pas, vous la connaissez ? Job ne savait pas ce qui était en train de se passer dans les cieux. Il y avait un enjeu spirituel sur sa vie. Satan va devant Dieu et lui dit « Donne-moi ce gaillard. Je vais te prouver par A plus B qu'il te suit simplement par opportunisme. » Et Dieu dit « Ok, vas-y, je te laisse Job. » Et vous savez ce qui s'est passé hein? Job a quasiment tout perdu. Et sa femme lui dit « Mais maudit ce Dieu, maudit ce Dieu !» Et dit Job « Non, 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 je vais continuer. » De lui faire confiance. À un moment donné, les choses vont basculer. Effectivement, on connaît l'histoire, les choses ont basculé du bon côté. Mais il y avait un enjeu spirituel. Et à ce moment-là, il y en a aussi un sur ma vie, mais bien sûr, on ne peut pas comparer, mais quand même, hein, c'est une vie aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Et c'est là que j'ai commencé de flirter là, avec la drogue. Et les copains, les amis, les gens qui m'entouraient, était tellement différent du milieu sportif. Là, le week-end, on s'amusait à prendre de la mescaline, du LSD, à vivre des trips psychédéliques et compagnie avec de la musique. Voilà. Hein. Donc là, ma vie renvoyait un message aussi. On s'habille différemment hein, quand on est dans ce milieu. La coupe de cheveux devient différente. Le parler, le langage devient différent. On émane quelque chose. Et je peux vous dire que là, mes parents ont commencé à se faire du souci. Et mes amis aussi, ceux qui étaient proches de la natation, ils disaient « Qu'est-ce qui nous fait Pileki ?» Voilà, là, là, là. Là, il y avait vraiment, c'est un mauvais présage dans ce sens-là. Hein. Je n'étais pas un bon signe. Mais l'Éternel regarde et voit tous les fils de l'homme. Et l'Éternel Dieu est celui qui met des limites à toute chose, qui pose des limites. Vous vous rendez compte ? Il l'a fait pour la mer. Proverbe 8, 29. Lorsqu'il donne une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent pas les bords. C'est impressionnant de voir ces milliards de litres d'eau. Puis vous avez la terre, et l'eau s'arrête là. Bon, des fois ça déborde évidemment. Mais, hein. Et moi je pense que Satan essayait de franchir les bords de ma vie à moi. Il essayait de m'entraîner. Hein. Ces vagues de fond qui vous entraînent parfois là où vous ne voudriez pas. Et les gens que je fréquentais n'étaient pas de bons signes. Hein, leur fréquentation ne présageait rien de bon. D'ailleurs, plusieurs sont morts par overdose par la suite. Pourquoi moi j'ai pu m'en sortir ? L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Et c'est alors, et ça c'est le centre de mon message, c'est alors que Dieu va placer un signe sur mon chemin. Je ne sais pas, il était peut-être minuit, il était peut-être 1h du matin. On sort d'un bistrot où tous les jeunes, plus ou moins, qui se droguaient, le Ruchli, pour ceux qui connaissaient à l'époque à Bienne. Et voilà une jeune fille de 17 ans qui est là devant moi. Bien sûr, je la connais. Je la connais. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là à minuit ou 1h du matin ? Pourquoi est-ce qu'elle est placée sur mon chemin en pleine nuit, dans mes ténèbres à moi ? Et cette jeune fille de 17 ans, visiblement, porte quelque chose en elle, la présence de Jésus. Mais je ne le savais pas non plus. Il a fallu que je la regarde bien, parce que je connaissais un peu ses yeux. Mais je l'ai bien regardée dans ses yeux et je me disais, il y a quelque chose de nouveau chez elle, parce que je l'ai connue plusieurs années auparavant. Et j'ai vu comme une espèce de vie en elle, quelque chose qui était fort. Elle commence à me parler de Jésus. Alors vous savez comment on est hein, quand on parle de Jésus à quelqu'un pour la première fois. S'il n'a pas un mur derrière lui, il va reculer au moins 2 mètres, hein, si ce n'est pas plus. Il dit non, je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas pour moi. Oh, j'ai déjà une religion. Oh, j'ai déjà ceci. Plein d'excuses. Mais moi, bon, elle avait des beaux yeux. Je me suis dit, je l'écoute. Et elle me parle d'une autre direction. Elle me parle d'une autre réalité que j'ignorais. Elle me parle d'une personne, d'une relation avec Jésus. Bon, allez, on serre les coudes, puis tout le reste, et puis on se dit, bon, ben, on va essayer d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Et il y a quelque chose au fond de tout ça qui est de l'ordre de la vérité. On ne peut pas le savoir, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, là, il y a du solide. On ne peut pas l'expliquer intellectuellement, rationnellement. On est un peu dépassé, c'est quelque chose qui vous vient comme ça dessus. Mais à partir de ce moment-là, parce que cette jeune femme a osé prendre le temps et venir à ma rencontre, que ma vie va commencer de basculer. Dieu voit tous les fils de l'homme, les filles aussi, bien sûr. Et c'est lui qui est à ta recherche, avant moi. Et c'est lui qui peut me placer au bon endroit, au bon moment. Essayez de vous rappeler comment vous avez été touché. Quels ont été les signes dans votre vie, les présages dans votre vie? Vous vous en rappelez? On peut... Comment ça, non? On ne peut pas l'oublier. C'est un moment marquant, c'est un moment à part de tout le reste de notre existence. Parce qu'il y a un commencement. On revient de nulle part. On part de zéro. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'elle a accepté de se rendre visible. Elle portait un message en elle, plus qu'un message, une personne. Elle avait envie de le partager. Elle avait envie de me dire ces choses-là. Elle l'a fait, tout simplement. Quelque temps plus tard, inévitable, je donne ma vie à Jésus. C'était tellement fort, c'était tellement beau. C'était... Et puis je voulais que ça soit pour moi, parce que je voyais bien les autres du groupe de jeunes ben, vivre des choses, mais je voulais... Je voulais être très égoïste à ce moment-là. Je voulais ma part de gâteau. Et le gâteau du Seigneur est tellement grand qu'il y en a pour tout le monde. Et là, j'ai commencé d'être un signe et un présage complètement différent d'avant. Panique à bord pour beaucoup. Pilecki est devenu chrétien. Oh, je me souviens toujours, j'avais une 2 chevaux bleue avec un grand New Life in Jesus jaune et rouge derrière sur le... Et on était à la vieille ville, arrêté, on était en train de boire quelque chose. Tout d'un coup, je vois un gars qui passe devant ma voiture, qui regarde, et il court à toute vitesse vers moi. C'est un ancien copain, il me dit, « Pilecki, t'es chrétien ?» Ben, j'ai dit, « Ben ouais. » »« Ah ben moi aussi, » qui me dit. C'était Jean-Claude Lichty, c'était trappé. Bref, voilà, des moments comme ça. Mais, je peux vous dire que du côté famille, ce n'était pas évident. Alors là, c'était beaucoup moins évident. Ce n'était pas un bon présage pour eux. Parce qu'ils étaient persuadés que ça y est, c'était l'entrée dans une secte. Tu vas où à l'église? Au 2e étage, en dessus de la boulangerie Schraner. Oh mon Dieu, c'est pas un temple. Il n'y a pas un pasteur avec une robe noire. Non, le pasteur, il est tout à fait normal. Oui, il a une cravate, mais... Ah bon? Puis vous faites quoi là? Ben, on prie. Oh mon Dieu. Puis on chante, et puis on... Voilà, des trucs comme ça. Je peux vous promettre que je n'étais pas un bon présage pour eux. Et c'est vrai que ça pouvait faire peur parce qu'il y avait des sectes éminemment dangereuses. Hein, il y en a toujours d'ailleurs. Et ça peut arriver. Alors je raconte encore une petite histoire pour vous montrer comment est-ce qu'on peut être aussi un signe, un présage. Au bout d'un certain temps, je vous passe les détails. Un groupe de jeunes, ben voilà, je commence un petit peu de jouer de la guitare, comme Marianne au début, à l'arrache un peu. Hein. Elle a fait des progrès incroyables, Marianne. Hein. On l'applaudit là, hein. tout le groupe là. C'est magnifique. Au début, waouh, et maintenant ça, hein, magnifique, continue. Donc voilà, le groupe de jeunes, tout ça, ben moi je ne pouvais pas rester anonyme, n'est-ce pas? J'étais un peu une grande, voilà. Mais le Seigneur a, voilà, un petit changé tout ça. Et puis voilà, je rencontre Yvette dans ce groupe de jeunes. Puis à l'époque, ben voilà, moi ça fait 3, 4, 5 mois qu'on est converti. Elle vient de se convertir la semaine d'avant. Elle est en pétard avec son père, avec sa famille, bababa, tout ça. Et puis je dis, bah écoute, puis voilà, on tombe amoureux. Et puis je dis, pas de problème le week-end, parce qu'elle était à Adlément toute la semaine, tu viens chez moi. Bah, à l'époque, hein, 72, 73, 74, on n'y voyait vraiment aucun mal. C'était même un bon présage. Hein. Ma mère me disait, ouais, profite, profite de la vie avant de te marier. Vas-y, tout bon, tu parles. Et au bout de quelques temps, il y avait un pasteur dans l'église. Il nous demande une visite. Bah, bienvenue, pasteur, voyons, bienvenue. Alors, il arrive. Là. Et puis, il commence son speech. Et puis, il nous dit, écoute, Alain, voilà, il a ravalé 3 fois sa salive. Voilà, on t'apprécie beaucoup, d'avoir le chocolat, tout ça, crème fouettée. Et puis après, mais tu comprends que, voilà, il y a le groupe de jeunes, là, vous vivez ensemble avant d'être mariés. Bon, ouais, puis alors. Et puis, il y a des gens qui s'aiment, il faut aller s'occuper des gens qui ne s'aiment pas, qui se tapent dessus. Puis, voilà, de fil en aiguille, tout d'un coup, je dis, hey, calme mon gars, hein, écoute ce qu'il a à te dire, le pasteur, hein. Et puis il me dit, écoute, voilà, on sent que tu as un potentiel, tu commences à prendre des responsabilités, tout ça. Sache que tu es un signe, un présage pour les jeunes dans le groupe. Ils te voient vivre et tu fais plutôt envie. C'est vrai quand même, quoi. Alors tu comprends que le fait que vous viviez ensemble, même si on savait déjà qu'on allait se marier au mois de juillet, elle devait finir voilà, son école normale, les examens finaux, tout ça, il me dit... Moi, je te demande par amour, pas parce que c'est écrit dans la Bible, pas parce qu'il y a un passage biblique qui dit « Oh, t'as péché, confesse-toi, change de vie ». Non. Il dit « Écoute, il faut vraiment que tu fasses une démarche par amour, que vous vous sépariez jusqu'au mariage, que vous donniez un bon signe, que ce soit un bon présage pour les jeunes qui vous entourent. Parce que vous, ok, c'est bon pour vous, vous avez 24 ans, voilà, c'est... mais là, vous avez des jeunes de 16, 17, 18 ans. Et en vous voyant vivre, eh ben, vous donnez un message. Vous leur dites, mais oui, pas de problème. Mais eux ne sont pas sûrs. Eux, ils vont essayer. Et ça sera un drame après l'autre. Alors Yvette, elle n'est de plus en plus renfrognée parce qu'elle avait déjà un problème avec les hommes à ce moment-là, je peux vous dire. Hein. Et puis moi, au contraire, je m'ouvrais de plus en plus. Je me disais, mais ouais, s'il était venu, Alain, vous vous séparez, là, c'était fini. Mais par amour, faites-le par amour pour ces jeunes. Devenez un signe, un présage pour eux. Je dis à Yvette, ok, je te laisse l'appartement et moi je retourne chez mes parents. J'ai fait mes 2 valises. Je suis arrivé, kling, c'est moi, votre fils bien-aimé. SDF, enfin voilà. Imaginez ma mère. Oula, ça confirme, il est dans une secte. Alors mon père, je ne vous dis même pas, il n'a rien dit. Il valait peut-être mieux. Et j'ai reposé mes valises à la maison jusqu'au mariage. Ça a été vraiment dur. Les copains se foutaient de nous. Ceux du groupe de jeunes me disaient, bah, c'est le moment hein, qu'ils aient mis leur vie en ordre. Non. Mais voyez un petit peu, signe et présage de la part de l'Éternel des armées. Et on a vécu un beau mariage, ça fait 42 ans qu'on est mariés. Et quand je retrouve les vieux copains qui se foutaient de moi, ils sont quasiment tous divorcés. Enfin, je ne leur souhaitais surtout pas le divorce, mais pour dire, vous comprenez ces choses-là. Alors, je vais terminer. Je l'ai rappelé dans le message précédent, Jésus est descendu dans ce monde, n'est-ce pas? Par amour. Ce n'est pas à cause d'un verset biblique que Jésus est descendu dans le monde. Hein? C'était pas, non? Il est venu par amour, car Dieu a tant aimé le monde. Un amour tellement débordant qu'il ne tenait plus en place. Ça vous est déjà arrivé de plus tenir en place? Il ne pouvait plus rester au ciel. Il a dit, voici je viens au Père pour faire ta volonté. Et hop, il est descendu. Et c'est intéressant de voir que, alors je prendrai ce verset de Éphésiens 4:9, il y a un passage assez difficile à comprendre. Même les théologiens ne sont pas tous d'accord. Mais enfin, l'apôtre Paul écrit et dit, il parle de l'ascension de Jésus. S'il est monté, s'il y a eu l'ascension, cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel, jusqu'au bas-fond de la terre. Hein. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alors, voilà, les théologiens se demandent, est-ce que c'est dans le Sheol, le lieu voilà, où les morts allaient, dans la vision juive, est-ce que c'est le séjour des morts, enfin bref. Mais ce qui est important en disant ce passage, c'est de réaliser que Jésus veut être Seigneur des Seigneurs dans tous les domaines de tout l'univers. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On ne sait pas trop, mais sous la terre. Il y a un lieu qui est écrit, hein, sous la terre. C'est là où des êtres vivent. Hein, voilà. Donc il veut être Seigneur de tous ces domaines-là. Et dans Philippiens, au chapitre 2, verset 10, il est dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Alors, on ne va pas s'allonger sur le problème théologique, mais moi, je peux transposer ce passage d'une manière assez compréhensible. Lorsque Jésus s'approche de nous et que nous nous approchons de lui, qu'est-ce qu'il commence par faire? Parce qu'il est poli. On l'a encore lu mardi soir pour ceux qui étaient à la prière. Toc, toc. Voilà. Hein? Je frappe à la porte de ta vie. Hein? Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, parce qu'il y a une poignée seulement à l'intérieur, il n'a pas à l'extérieur, j'entre chez lui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il lit toute une litanie de péchés que vous avez fait dans votre vie? Non. Il mange avec nous. C'est un moment de grande communion. C'est magnifique de manger avec des amis, déjà avec sa femme ou avec son conjoint. Mais c'est magnifique. On se prépare quand on veut accueillir des amis, n'est-ce pas? On fait une belle table, on sort le meilleur vin. Voilà. Hein? Donc, il est dit, et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Ça, c'est parole vivante qui le traduit ainsi, mais c'est magnifique. Hein? Donc, en lui ouvrant notre porte, nous le laissons franchir les bords de notre vie. Il y a un enjeu spirituel sur ta vie aussi. Satan n'est pas très content de te voir appartenir à Jésus, n'est-ce pas? Et fréquemment, il essaye de te déborder, d'entrer dans ta vie d'une manière ou d'une autre, très subtile souvent. Mais il essaye. Mais Jésus, lui, il est poli. Lui, ce n'est pas un violeur de vie. Il frappe. Il dit, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux souper avec toi? Est-ce qu'on peut avoir un moment d'intimité, de communion, de partage? Hein? Et le face-à-face avec Jésus, c'est le moment où toute une existence peut basculer. C'est un moment unique, parce qu'il a des choses à nous dire. Il est le signe et le présage par excellence dans toute l'histoire de l'humanité. Il a quelque chose qui nous attire. Et il a un message tellement fort à nous transmettre. Il a des choses à dire de la part de l'Éternel des armées en Israël. Et c'est des choses qui vont bouleverser notre vie. Mais Jésus ne veut pas s'arrêter là. Et c'est là que nous devons prendre conscience que Jésus veut devenir Seigneur de toute notre vie, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Parce qu'il faut que nous devenions un être tout entier bien en harmonie. Avant, c'est le chaos, on ne sait pas trop. On est dans le corps, on est dans l'âme, on est ici, on est pas. Hein? Et là, il veut faire de nous un être tout entier. Donc, il ne va pas s'arrêter à prendre un bon repas avec toi, ou à te proposer sa paix. Bien sûr qu'il va le faire, mais il ne va pas s'arrêter là. Et c'est là que je rejoins ce passage. Il ne se contente pas d'être entré dans notre cuisine ou dans notre salle à manger. Il veut descendre dans les profondeurs de notre terre. Il veut descendre dans les profondeurs de notre terre, dans les régions inférieures de notre vie. J'avais mis l'image d'un mineur. Pourquoi un mineur? Celui qui est descendu. Jésus ne veut pas seulement venir à ta rencontre, il ne veut pas seulement entrer dans ta vie. Il veut entrer dans les profondeurs de ta vie. Là où tu ne t'imagines même pas, parce que quand on entre dans la terre pour un mineur, il sait quand il descend, mais il ne sait pas jusqu'où. Il peut aller très profondément. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Il veut descendre dans les profondeurs de notre vie parce que ce sont nos souffrances qu'il va porter. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Il entre en profondeur dans notre vie. Et il en ressort comme un mineur avec des minerais. Ce sont nos péchés, ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances. Et pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Et il n'a pas fini. Hein. Des fois, j'ai dit, Seigneur, va encore un peu plus bas. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a tout au fond de ma vie. Mais lui le sait. Et pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Il va sortir toutes ces choses de notre vie, bien sûr, pour le remplacer. Pour que nous puissions devenir des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées à la Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas d'autre raison. Si c'est juste pour que tu ailles mieux, si c'est juste pour que ça soit fun, que ça soit sympa, alors il a payé un sacré prix à la croix. Hein. Mais si Jésus a payé le prix à la croix, pour moi, c'est pour faire de moi un signe, un présage. Pour que nous puissions être rendus visibles, pour que nous puissions partager ce message maintenant qui fait l'essentiel de notre vie. Jamais je ne pourrai oublier ce moment. Qui c'est qui a 17 ans ici? 17 ans. Voilà. Est-ce que tu te rends compte que tu peux être un signe, un présage pour quelqu'un dans cette ville, comme moi, qui était paumé à 11h ou minuit ou 1h du matin, et que tu peux donner à cette personne la possibilité de changer de cap à 17 ans? Donc on peut le faire toute sa vie après. Alors je termine en faisant une proposition concrète. Je sais qu'il y a mille et une manières d'être signe et présage. D'ailleurs, les jeunes qui sont allés en Grèce, ils étaient des signes, n'est-ce pas? Il y a des petites choses qui se sont passées, peut-être des grandes choses aussi. Cette Bible que cet homme a reçue, c'est extraordinaire. Hein? Donc, je ne veux pas limiter à une seule manière de faire, n'est-ce pas? Mais ce que je vous propose, pour ceux qui le désirent, c'est que dans la période de décembre, qui est une période favorable, parce que les gens, d'une manière ou d'une autre, même si c'est très... Esprit mercantile, voilà, les cadeaux, tout ça. Quand même, s'il y a un moment dans l'année où les gens se rappellent plus ou moins d'un Jésus qui est venu, qui est né à Bethléem, c'est bien là, n'est-ce pas? Donc pourquoi pas profiter de ce moment? Et le but, c'est de faire un petit peu ce qu'on a fait déjà avec quelques jeunes devant Espace Cité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'opération Jean 3,16. C'est archi simple. C'est plus simple, tu ne peux pas. Un évangile de Jean, un petit signet, Jean 3,16, Joyeux Noël. Et vous allez à la rencontre des gens et vous leur posez la question. Est-ce que vous savez ce que signifie Jean 3,16? Et les gens ne savent pas. Et très rapidement, vous pouvez entrer en discussion. Vous savez, c'est dans la Bible. C'est là. Et on a vécu, moi j'ai vécu des expériences. J'ai jamais eu autant de gens qui ont été attentifs alors qu'on leur transmettait un simple petit évangile de Jean. Et ça a donné des discussions magnifiques. Donc l'idée, c'est de reprendre la même, la même chose qu'on a fait et de ressortir le samedi matin de 10h à midi, par exemple. Hein, les détails suivront. Et de se dire, waouh, on peut être des signes et des présages. Encore une fois, on peut le faire de mille et une manières. Vous pouvez en prendre chez vous à la maison, les distribuer à vos familles, peu importe. Mais moi, j'aime bien aller dans la rue parce qu'on rencontre une personne. Et quand je me dis que Dieu est venu à ma recherche et qu'il m'a rencontré à 1h du matin au travers d'une jeune fille de 17 ans, je me dis, moi j'aimerais aussi rencontrer des gens dans cette ville. Et j'aimerais être aussi pour eux une source de bénédiction, leur transmettre ce message. Amen. Amen. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier de tout notre cœur parce que plus on y pense, plus on réalise que ce qu'on vit est quelque chose d'absolument extraordinaire. On n'y est pas arrivé par nous-mêmes. C'est toi qui nous as cherchés. C'est toi qui as mis des situations ou des personnes sur notre chemin pour que nos yeux, puis ensuite nos cœurs, nos oreilles, nos cœurs s'ouvrent. Merci Seigneur pour les signes et les présages que tu as mis sur notre route. Merci Seigneur pour ce qu'ils ont pu nous transmettre, même de manière un peu simple et peut-être d'une manière qui n'était pas très compréhensible pour nous. Il y avait ton amour, il y avait ta présence. Et nous voulons te demander que tu nous aides, Seigneur, chaque jour, à ouvrir les yeux sur ce que tu veux faire, sur les personnes qui croisent notre chemin, sur celles que nous rencontrons, volontairement ou involontairement, pour qu'à notre tour, nous puissions être ces signes de bon augure, ces signes de vie pour chacune d'entre elles, à la gloire de ton nom. Amen. Amen.